Bonjour, ici François Nardoux de Montcuq, depuis le studio du Boulevard. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une fête qui cette année interviendra fin février, à savoir le carnaval. Alors, qu'est-ce que c'est que le carnaval? Il y a plusieurs questions qui se posent, outre l'étymologie du nom. C'est la fixation de sa date. En effet, la fixation de la date de carnaval et de la période dans laquelle il se trouve est fonction de la date de Pâques, qui est une fête à date lunaire. Donc mobile. Vous savez que Pâques est fixé au premier dimanche qui suit la pleine lune de l'équinoxe de printemps, ou la première pleine lune après l'équinoxe. Ce qui fait que Pâques intervenant le 50e jour après le début du carême, fixé au mercredi décembre, le carnaval se situe immédiatement avant le début du carême, donc disons un peu plus de 50 jours avant Pâques. Donc, le carnaval est une fête, une célébration, un rite, une tradition, qui a été créée à partir d'eux, en fonction d'eux, en rapport avec le carême et donc la date de Pâques. C'est donc une fête à date lunaire qui était fort intéressante pour les ethnologues et pour les historiens des mythes, des religions et autres choses de la sorte. Alors, qu'est-ce que c'est que le carnaval? On l'a défini comme étant, en quelque sorte, l'inversion de l'ordre social en place, le monde à l'envers, le chaos. Et ce temps renversé, qui est celui de carnaval, précède le temps du carême, qui nous mène vers la date de Pâques et la résurrection. Alors, il y a là des thèmes en rapport avec le calendrier ancien et avec toute la symbolique des fêtes de passage de fin d'hiver à début de printemps. Alors, d'abord, venons-en un peu au mot lui-même, le terme de carnaval. Alors, ça pose beaucoup de problèmes. Je suis partisan, moi, d'une étymologie en carus navalis, ou currus navalis, c'est-à-dire le char naval, le bateau en forme de char dans lequel Dionysos, initié, revient des Indes, dans ce carus navalis, ce char naval tiré par des panthères, et bateau dont les rames, les mâts se sont transformés en rames de vigne, Dionysos lui-même étant couronné de feuilles de lierre sans les baies. D'autres pensent à une autre étymologie, c'est d'après le latin et l'italien. Carnivale viendrait du latin carnes levandas, lorsque l'on supprime la viande du régime alimentaire. Certains historiens des mythes, et historiens tout court en général, au courant des étymologies, pas que latines, mais aussi celtiques, je pense à quelqu'un dont je vais souvent parler, Dominique Pauvert, docteur d'État en histoire, pencherait pour une étymologie sur le celtique qui ferait de carnaval une forme romanisée de carn wellaun. Wellaun, c'est l'excellent, wellaunos, qui l'on retrouve dans la toponymie et l'anthroponymie gauloise. L'excellent des cornes, carn. Ce serait donc... Carnaval serait un rite, une tradition, une coutume, une fête qui mettrait en scène un grand dieu gaulois bien connu, Cernunnos. Les rites de carnaval prêtent à beaucoup de confusion. Vous savez que l'occitan masco, confondu erronément avec le français masque, ne signifie pas masque, mais au contraire sorcier ou sorcière. La masco en occitan, c'est l'équivalent de la brueixo. Le brueix, la brueixo, c'est le sorcier ou la sorcière. L'occitan pour masque, c'est masquero, et être masqué, c'est eixe masquerat, au masculin singulier, eixe masquerado, au féminin singulier. Or, carnaval, c'est la fête des masques. C'est un rite qui donc nous rappelle bien des choses que nous connaissons chez les populations, chez les peuples dits premiers, on n'ose plus dire primitifs, d'Afrique, d'Amazonie, d'Océanie, ou à certaines dates, et en rapport avec certains rites sociaux bien particuliers, d'initiation notamment, de passage d'une classe d'âge à une autre, et en fonction de dates du calendrier lunaire, les initiés, qui sont aussi des initiateurs, qui font passer les adolescents à l'âge adulte par exemple, les initiés sortent dans les rues du village, portant des costumes faits de matières végétales ou animales et le visage couvert de masques en bois ou en tissu ou en matière tressée. Cette sortie des masques entraîne l'interdiction pour les femmes et pour les enfants non initiés de sortir dans les rues, doivent rester enfermés dedans et sans voir les masques. La sortie des masques est un rite donc initiatique qui couronne, plutôt qui parachève l'initiation des jeunes. Dans l'Europe ancienne, la sortie des masques de carnaval se traduit, ou plutôt a pour cadre, comment dirais-je, une espèce de fête collective qui se traduit par une folie carnavalesque Le monde est mis à l'envers et c'est toute la communauté d'habitants qui s'y livre. On n'a pas, comme de nos jours, ces défilés de carnaval qui ne sont que des spectacles où la population du lieu ne participe pas. Il y a des spécialistes locaux qui organisent les défilés de carnaval. Mais ce n'est plus, comme dans l'Europe ancienne, une fête, une réjouissance collective. Alors, carnaval, d'après tout ce que nous en disent les ouvrages que l'on peut consulter, et ils sont nombreux, d'après les œuvres picturales de Jérôme Bosch, de Pierre Le Bruegel, carnaval, c'est finalement quoi ? C'est la fête qui permet la subversion des codes, de l'ordre social, un jeu des apparences, un ersatz de révolution. C'est dans le cadre de sociétés très contrôlées, très policées, très contraignantes, une soupape de sécurité. C'est le renversement du haut et du bas. Le bas de la société s'empare des fonctions et de la place du haut. C'est une illusion de liberté assimilée à l'inversion de l'ordre social. Et cette inversion se traduit par quoi ? Des vêtements portés à l'envers, des accoutrements masculins-féminins, les hommes portent des vêtements féminins, les femmes des vêtements masculins, le corps est couvert de, on appelle ça en occitan des pelios, c'est-à-dire des tissus divers, fourrures, tissus végétaux et autres, qui revêtent complètement le corps. Le corps est totalement caché et le visage est caché par un masque. Les participants portent des instruments bruyants, sonnants, soufflants. Cette sortie des masques se fait avec la participation de tous. La communauté d'habitants se livre à la folie carnavalesque et le monde est à l'envers. On en connaît quelques allusions qui sont faites sur les voussures du portail nord de la cathédrale de Cahors. On en connaît quelques allusions dans le cœur de l'église Saint-Hilaire de Montcuq, au niveau médian de l'abside. On peut dire que, c'est les travaux des historiens qui se sont intéressés à la chose, carnaval imite, contrefait, parodie les fêtes d'Ancien Régime et celles de la Révolution. Il faut penser aux travaux de Mona Ozouf. Alors, fêtes d'Ancien Régime lors desquelles la société urbaine et bourgeoise se mettait en représentation théâtrale, lors notamment des processions de la fête Dieu et d'autres processions religieuses. Au fond, carnaval, ce serait une antifête religieuse, une imitation, mais aussi le contraire de la fête urbaine religieuse, ecclésiale, encadrée par l'Église, fête bourgeoise et policée. Ça imiterait également, mais en le parodiant, ce serait l'antithèse, en quelque sorte, des joyeuses entrées royales des siècles modernes. Ce serait aussi l'antithèse des adventus impériaux antiques et médiévaux, ou épiscopaux, songés à Cahors, à l'entrée solennelle des évêques de Cahors, par soit la Barbacane, soit la porte Saint-Michel, au niveau du cimetière. L'évêque de Cahors entrait dans la ville sur un cheval, il siégeait à l'endroit, évidemment, face vers la tête. Il était guidé par le sire de Montagut et de Sessac, Mouchu des Montagut, un pied chaussé et l'autre nu, Mouchu des Montagut, une pécaussate et l'autre nut. Ce monsieur de Montaigu accueillit l'évêque à la hauteur de l'église Saint-Georges, en face de l'ancienne église Saint-Laurent, au débouché du pont romain, contourner Cahors par la rive sud, entrer dans Cahors par le pont actuel de Cabessu, l'ancien guet du port Bullier, ce qu'on appellera le pont Neuf ensuite, et monter par la côte des évêques pour aboutir à la Barbacane ou à la porte Saint-Michel. Les défilés de carnaval étaient l'antithèse de ces rites. Et pourquoi cela ? Parce que nous avons dans la région de Languedoc-Roussillon, à Pézenas, à Limoux et ailleurs, des processions de carnaval qui sont des parodies imitatives et, comment dirais-je, ridiculisantes des grandes entrées épiscopales dans les villes médiévales. Je vous en parlerai un peu tout à l'heure. Alors, dans l'Europe ancienne, ces défilés de carnaval masqués se rencontrent avec des traditions beaucoup plus anciennes, antérieures, qui sont à peu près les mêmes que celles des peuples premiers, mais qui en Europe peuvent être datées, situées dans le cadre des civilisations de l'Europe ancienne. Alors, on s'est aperçu que dans l'Europe des chaînes montagneuses comme les Pyrénées, les Alpes, les Carpates, les Balkans, l'arc alpin et ses annexes, zones de peuplement proto-indo-européennes, les premiers indo-européens, les premiers éleveurs paysans du néolithique et du calcolithique, mais également en péninsule ibérique et jusque dans les Pyrénées, qui sont des zones de peuplement pré-indo-européennes, le carnaval se rencontre et se confond avec des rites beaucoup plus anciens. Ce sont des rites de peuples paysans, de chasseurs-cueilleurs, de premiers agriculteurs. Et alors là, c'est très intéressant parce qu'on voit, à certaines dates de l'année, en fin d'hiver, début de printemps, et ça, c'est fonction de... Comment dirais-je, ça se cale sur le calendrier liturgique, mais d'une façon qui est variable d'une région à l'autre. Mais souvent, ça correspond à notre carnaval. Et on voit des personnages complètement masqués, portant des vêtements qu'ils ne portent que ce jour-là. Hein. Ce sont des vêtements composés de fibres végétales, de tissus animaux, qui les recouvrent complètement. Et ils portent des masques terrifiants, toujours cornus. Ils sortent par groupes, actuellement sont de petits groupes, c'est une tradition en voie d'oubli, mais qui se maintient dans le cadre de l'économie touristique. Et ils errent à travers la campagne, entrent dans les villages, dans les bourgs, les villes, et se livrent à toutes sortes de facéties et de comportements destinés à terrifier la population, voire même, alors c'est le cas à Prazzemolo, c'est le cas dans le Roussillon, Arles-sur-Tech et autres, ce sont des rites qui mettent en scène l'ours qui se réveille, je vous le disais la dernière fois, pour la chandeleur, à la fin de l'hiver, au début du printemps. Ours qui, par son réveil à certaines dates bien particulières, inaugure la nouvelle année, et la nouvelle année agraire et l'entrée dans le printemps. Et l'ours, à ce moment-là, joue un rôle de fécondateur des femelles, de fécondateur des femmes du village, des femmes, des jeunes filles. Par des rites de mâchurage du visage. Enfin, ils enduisent de mou de raisin, de mou de vendange et même de matière fécale le visage des femmes qui leur tombent sous la main et qui ne demandent pas mieux du reste que d'être agressées et assaillies de la sorte. C'est une promesse de fécondité pour l'année suivante. Fécondité des femmes et fécondité des récoltes. Et ces personnages qui agissent dans les rues de Cournon-Terral, de Limoux, de Pézenas, sont connus pour leur comportement totalement débridé et sans aucune contrainte. Ça me fait me souvenir de ce que me disait notre prof d'allemand en seconde au lycée de Clément Marot, mademoiselle Reiser, agrégée d'allemand. Elle nous disait en Allemagne, dans la vallée du Rhin et la vallée du Danube, les pays très catholiques, dans les trois jours avant le début du carême, dimanche gras, lundi gras, mardi gras, le lundi, qu'on appelle le Rosenmontag, le lundi des roses, on peut faire tout et n'importe quoi, tout est permis, y compris l'inimaginable, à la faveur évidemment du masque. Le masque autorise tout, comme lors des carnavals du XVIIIe siècle à Venise. Ces rites de personnages masqués qui interviennent dans les célébrations de carnaval, dans nos régions méridionales et dans les régions des chaînes de montagnes européennes, si vous voulez, c'est une rencontre par le hasard des choses, par le hasard du calendrier qui a fait que des rites de fin d'hiver, début de printemps se sont fondus avec ceux de carnaval. Mais carnaval a une autre fonction. En fait, carnaval, qu'est-ce que c'est ? C'est l'anti-carême. Carnaval est né en réaction contre et avant le carême, ce dont je vais vous parler maintenant, après une pause musicale.
Carnavalesa, carnavalesa, ricarnavalesa. Carnavales arriva, carnavales arriva, fumo la pipa, fumo la pipa, la carnavales arriva, fumo la pipa, la carnavales arriva, carnavales arriva, fumo la pipa, fumo la pipa, la carnavales arriva, fumo la pipa, la carnavales arriva, carnavales arriva, fumo la pipa, fumo la pipa, la carnavales arriva, fumo la pipa, la carnavales arriva, fumo la pipa, fumo la pipa, la carnavales arriva. Carnavalesa, carnavalesa, ricarnavalesa, carnavalesa, arriva, carnavalesa, carnavalesa, ricarnavalesa, carnavalesa, arriva, carnavalesa, carnavalesa, ricarnavalesa, carnavalesa, arriva, carnavalesa, carnavalesa, ricarnavalesa, carnavalesa, arriva. Carnavales arriva tu, arriva lupa ore carnaval, chiesa chiru carnavales arriva tu,
arriva l'upone carnaval.
Carnaval è arrivato, fumo la pipo, la carnaval è arrivato, fumo la pipo, iappa di tabacco.
Carnaval è arrivato, fumo la pipo, la carnaval è arrivato, fumo la pipo, iappa di tabacco. Carnaval è arrivato, fumo la pipo, la carnaval è arrivato. Fumo la pipo, iappa di tabacco, carnavale è arrivato. Fumo la pipo, la carnavale è arrivato. Fumo la pipo, iappa di tabacco,
carnavale è arrivato.
Carnavale è arrivato. Carnavale è arrivato. Carnavale è arrivato. Lo carnavale è arrivato.
Alors, nous continuons avec nos masques cornus. Qu'est-ce que ça peut représenter que ces masques du carnaval primitif de l'Europe d'avant le christianisme ? Ces masques, en fait, ils n'ont rien à voir avec le christianisme. Leur rencontre avec le carnaval est tout à fait due au hasard. Notre carnaval traditionnel des derniers jours avant le début du carême, ça commence quelquefois dès le jeudi avant le mercredi des Cendres, donc ça dure presque 6 ou 7 jours. C'est un carnaval qui est né en réaction contre le carême. Lorsque l'Église, pour préparer les fidèles à la fête de Pâques, a instauré le carême, en réaction contre, s'est créé dans toute l'Europe chrétienne des rites, des célébrations dites de carnaval. Qui sont quoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est les fêtes de l'abondance, où l'on se livre à des ripailles, on mange gras, on mange abondamment, on boit beaucoup, on épuise les réserves de l'année contenues dans les greniers, les chais et les celliers, en vue de réactiver la nature et d'assurer l'abondance des récoltes prochaines. C'est une attitude assez illogique qui consiste à épuiser les réserves pour, en quelque sorte, provoquer l'abondance des récoltes de l'année suivante. Et ces jours gras d'avant-carnaval se sont doublés ensuite de fêtes par déguisement, par port de vêtements qui sont l'inverse de ce qu'on porterait dans l'ordre naturel des choses. Au fond, ce sont des fêtes de subversion de l'ordre social, telles qu'imposées par l'Église. Mais, très curieusement, on considère que cette subversion de l'ordre social est nécessaire au rétablissement de celui-ci à la faveur du carême et lors des fêtes de Pâques. On est donc dans des rites de mutation du temps calendaire. Alors les masques portés à ce moment-là, je pense donc à ces fameux masques cornus de l'Europe des chaînes de montagne, nous posent des problèmes. Qu'est-ce qu'ils représentent ? Alors, dans l'église Saint-Hilaire de Montcuq, niveau médian de l'abside, vous avez des masques animaux qui sont représentés. Par ailleurs, ils sont souvent porteurs de cornes de bouc, qui évoquent le Dionysos grec, le Tragos. Dionysos, ne l'oubliez pas, c'est le maître des animaux, des récoltes, de la nature sauvage et cultivée, c'est un esprit de la nature, il est aussi celui dont les rites sont aux origines du théâtre. D'où le nom de tragédie. La tragédie, c'est la fête du Tragos, en fait c'est la vision du Tragos, le Tragos, c'est le bouc. Ce bouc, c'est le Cernunnos gaulois. Ce sera le grand cornu de la mythologie chrétienne médiévale. Il va être donc assimilé au diable. On le retrouvera dans la représentation picturale par Goya des rites de sorcellerie, des rites de magie noire du sabbat. Ça fait donc du carnaval l'anti-christianisme, l'anti-religion chrétienne. Mais il semblerait que chez les populations de l'Europe ancienne, ces masques cornus soient en quelque sorte des capteurs, des receleurs de vertus, de puissance, de pouvoirs magico-religieux, destinés à réanimer la nature à la fin de l'hiver et au début du printemps. Il faut remarquer une chose, c'est ce que j'avais oublié de vous dire, c'est que dans l'Europe ancienne, la période carnavalesque ne se réduisait pas comme de nos jours aux derniers jours avant le début du carême, les trois derniers, les six au maximum. La période carnavalesque commençait dès le lendemain des rois mages, et elle durait donc jusqu'au Mardi Gras. Il se trouve que les sorties des masques cornus, correspondaient à des dates où on pensait que les morts revenaient parmi les vivants. Donc ces masques cornus représentaient les défunts, les trépassés, les ancêtres fondateurs de la communauté humaine, de la communauté villageoise, paysanne ou urbaine. Est-ce que par hasard, dans l'esprit de ces populations, les morts ne seraient-ils pas les vrais vivants ? Plutôt que des défunts oubliés. N'oubliez pas que dans nos régions, les cimetières étaient souvent accolés à l'église. C'est le cas à Montcuq, où au Moyen-Âge, le cimetière était accosté au chevet de l'église Saint-Hilaire. Et, chose qu'il faut savoir, les fêtes votives de la communauté locale se déroulaient souvent dans les cimetières. On considérait que les trépidations donnés au sol par les danseurs, par les gens qui se livraient à différentes réjouissances, réveiller les morts et réveiller la nature. On est donc là, si vous voulez, dans une vision du monde et des choses qui met en jeu la conception qu'on a du calendrier et de l'espace et de la nature. Alors, on s'est aperçu que donc, ces sorties de masques correspondaient à des périodes de 6 jours avant le mercredi des cendres. Ça reproduit les 12 jours hors du temps d'entre Noël et le jour des rois, les 6 jours d'avant et d'après le solstice d'hiver et le solstice d'été. Au fond, on s'aperçoit que l'année agraire, magico-religieuse, est scandée par des sizaines, des périodes de 6 jours, au passage et aux mutations et au retour calendaire, lorsque le calendrier change, mute ou fait retour en arrière. Ce qui est le cas, du reste, des jours du carnaval, où en quelque sorte, le chaos engendre le retour vers les origines, sens profond du mot révolution. La révolution, c'est le retour au point d'origine. À quoi ça consistait le rite ? Ça consistait à ce que, lorsque le jour des rois ont tiré la fève, le roi désigné pour avoir pris le morceau de gâteau où se trouvait la fève était aussi le roi de carnaval. Il était le futur bonhomme carnaval, en quelque sorte. Et la période en question se durait donc jusqu'au mercredi des cendres, pendant une période qui donc pouvait être variable de longueur selon la date de Pâques, puisque la date de Pâques peut être plus ou moins précoce, plus ou moins tardive, et donc le début du carême de même, et le carnaval de la même façon. C'est une date mobile, et donc une date lunaire. Le carnaval était caractérisé, comme tout l'hiver, par de grosses nourritures grasses, carnées, de grosses boissons, de vin et de liqueurs chaudes, de liqueurs épicées. Il était le paroxysme des goinfreries hivernales. Et ce carnaval incitait donc, une fois le carême commencé, le carême durant en principe 40 jours, mais en fait c'est assez compliqué parce qu'il y a des jours où l'Église levait l'obligation de jeûne, ce qui prolongeait le carnaval à 46 jours et faisait que Pâques tombait en fait le 50e jour après le début du carême. Alors le mercredi des cendres, qu'est-ce que c'est ? C'est le lendemain du Mardi Gras et ce jour-là, pendant la messe du jour, le prêtre célébrant impose aux fidèles une croix faite de cendres sur le front. Ces cendres sont obtenues en brûlant les rameaux bénis de l'année précédente. Et le carême consiste à quoi ? Au fond, à évacuer les humeurs produites par la surabondance alimentaire hivernale. Le carême, au fond, est une véritable cure dépurative. On mange des salades de pissenlit, de jeunes herbes amères de printemps, alors les pâquerettes, la patience, la bourrache, le poireau sauvage, les chicorées de jardin, les respunsus. Au fond, il s'agit de se purger l'organisme. J'avais une arrière-grand-mère charentaise qui respectait très sérieusement les obligations, les abstinences de carême, et qui donc ne mangeait rien de carné ni de gras pendant les 40 et quelques jours du carême. Et à l'issue du carême, elle disait qu'elle avait l'impression d'avoir l'estomac élavé, l'estomac nettoyé. Une autre arrière-grand-mère, mais du côté maternel, elle, les derniers jours avant le mercredi des cendres, récurait à fond tous les ustensiles de cuisine, de façon à ce qu'il ne reste aucune trace de graisse. Vieil héritage des rites et traditions cathares du Moyen-Âge. Or, l'arrière-grand-mère à laquelle je pense descendait des Bayrounates de Montpezat, dont tout me fait dire qu'ils ont été cathares et puissamment cathares au XIIe-XIIIe siècle. Mon arrière-grand-mère passait les jours gras, pendant lesquels la population se livrait à des festivités débordantes de, il faut le dire souvent, vulgarité et grossièreté. Elle les passait en prière, macération, pénitence, dans l'église de sa paroisse, dans le cadre de ce qu'on appelait les 40 heures de pénitence que l'église avait créées pour racheter les péchés des gens qui se livraient au carnaval dans toute la réalité, quelquefois la plus grossière du terme. L'Église a longtemps lutté contre le carnaval, sans arriver à quoi que ce soit comme résultat, et pour quelle raison ces festivités de carnaval de l'Europe ancienne, je parle toujours de l'Europe ancienne, pourquoi ? Parce que de nos jours, le carnaval est en voie complète d'obsolescence, d'abandon, de disparition. Le carnaval disparaît, pourquoi ? Parce que qu'est-ce que c'est qui fait naître le carnaval ? C'est le besoin de se libérer des contraintes subies le reste de l'année. À partir du moment où la société change, où les contraintes subies disparaissent, le besoin de les surmonter par un renversement momentané de l'ordre social disparaît. Et le carnaval fait partie de ces rites périodiques qui, l'ordre social changeant, ont tendance à disparaître à leur tour. Ils ne sont plus que des vestiges, des témoignages qui donnent des sens aux festivités actuelles de Nice, de São Paulo, de Dunkerque et autres, qui ne sont plus que des festivités pour touristes. Alors, le carnaval est un rite qui met en valeur un personnage bien particulier qu'on appelle le roi de carnaval, le bonhomme carnaval, dont je vais vous parler maintenant après une petite interruption musicale.
Carnaval, qu'est-ce un bravo, mi me, qu'est-ce un foutu un grouman, sa minia toute le spoule, sta di chaque nous rasan. Adieu, prove, 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 adieu, prove, carnaval. Adieu, prove, 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 adieu, prove, carnaval. Carnaval, qu'est-ce un bravo, mi me, qu'est-ce un foutu un grouman, sa minia toute le strip, sta di chaque nous rouillans. Adieu, prove, 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 adieu, prove, carnaval. Adieu, prove, prove.
Alors, le carnaval, c'est une période qui met en scène un personnage, le bonhomme carnaval, qui est le roi de carnaval. Or, ce roi, il est destiné à un sort malheureux, il est destiné à être brûlé ou noyé le soir du Mardi Gras, quelquefois le jour du Mercredi des Cendres. Et il est intéressant, pourquoi ? Parce que c'est, dans la tradition, un personnage de paille, mais qui se pourrait bien succède, enfin, il est le substitut du personnage réel désigné le jour des rois par le tirage de la fève. Et ce roi de carnaval que l'on va brûler, noyer le soir du Mardi Gras, me paraît être tout à fait semblable à ce qu'on appelle les rois de substitution. Dans la Rome ancienne, c'était l'interrex. C'est-à-dire que lorsque le roi en titre, en place, parvient à une certaine phase, un certain stade de son règne, et en fonction de date du calendrier, il était voué à être sacrifié. Pour éviter cela, il se retire, s'occulte, se cache, et pendant quelques jours, c'est un substitut qui le remplace. Substitut qui sera ensuite sacrifié à sa place, de façon à permettre à la royauté de devenir viagère puis héréditaire. Il y aurait donc eu un sacrifice annuel en fin d'hiver début de printemps, d'abord du roi en place, puis ensuite d'un substitut, un interrex. Et j'ai l'impression que les rites de carnaval connus dans nos régions, notamment à Lozère, mais aussi ailleurs en vallée du Lot et dans les vallées des rivières affluentes, me rappellent tout ce qu'on peut dire de ces traditions anciennes. Alors en effet, c'est par le fameux recueil de travaux d'ethnologie consacré au canton de Lozère sous le titre « Alcantou » aux éditions de la Talbero que j'ai pu retrouver des choses intéressantes ainsi que dans le vieux Quercy du chanoine Sol. Alors à Lozère, pour le Mardi Gras, on devait faire un gros repas. Un gros repas qui devait nécessairement comporter une poule, ou un poulet, voire un coq. La poule grasse devait être bouillie, le poulet rôti à la broche. On commençait le repas par un potage de poule farci au vermicelle, suivi d'un poulet rôti. Le repas était clôturé par des gâteaux, pastis, coques, croustades, arrosés de vin blanc. Et dans la tradition lozertine, il y avait une obligation. Il fallait à tout prix manger une poule grasse ou un poulet rôti le jour de Mardi Gras sous peine de s'attirer des malheurs. C'était un véritable rite assurant la prospérité et l'abondance. Or, il se trouve que dans certaines régions, le jeudi avant le Mardi Gras, on se livrait à des jeux consistant à décapiter un coq qui était ensuite rôti et mangé le jour du Mardi Gras. À Lozère, le jour du Mardi Gras était assez curieusement une répétition de la veille de Noël. C'est-à-dire que le matin, on travaillait, à midi, on cessait tout travail. Ensuite, on mangeait un bon et gros repas. L'après-midi, on se livrait à des jeux de société, des jeux de cartes. Et c'était le soir qu'avait lieu le défilé de carnaval, qui se terminait par le brûlement du bonhomme carnaval. Alors, c'est intéressant parce que ça met en scène l'opposition de la société lozertine entre deux groupes. Les baris, les faubourgs en contrebas de la vieille ville et la vieille ville sur le pêche, qui est la ville dominante. On a là une opposition entre dominant et dominé, mais avec de curieux renversements de lieu et de fonction. Bon, il faut savoir que, ce serait un peu long à expliquer, mais les paroisses à Saint-Patron fêtées l'hiver sont toujours des paroisses de dominants. Et celles à Saint-Patron fêtées l'été sont des paroisses de dominés. Or, à Lozère, c'est exactement l'inverse qui se produit. Il y a un renversement total des lieux et des fonctions. Ce qui fait qu'à Lozère, le carnaval, qui se terminait sur la promenade des Abéliès, c'est-à-dire où ressort le nom du vieux dieu ibéro-aquitain Abélio, le dieu des hauteurs, cette promenade se terminait par le brûlement du bonhomme carnaval sur les Abéliès, à proximité immédiate de l'ancien castel des comtes de Toulouse et de la Sénéchaussée, qui était le lieu de judicature. Je m'aperçois que dans le Quercy ancien, on ne brûle carnaval que faute de rivière. Dès l'instant où le bourg ou la ville sont à proximité immédiate d'une rivière, on le noie. En cas d'habitat groupé en fond de vallée, le carnaval est noyé. En cas d'habitat perché, il est brûlé. D'où peut-être une symbolique du feu et de l'eau. Ce n'est pas impossible. Le feu qui mène, qui fait monter vers le ciel, et l'eau qui fait descendre vers le monde d'en bas. Alors, ce qui est intéressant dans ces processions burlesques, c'est que finalement, elles se traduisent par quoi ? Moi, elles m'ont paru imiter les processions qui accompagnaient les hérétiques condamnés au bûcher au Moyen-Âge par l'Inquisition. En effet, le roi de carnaval, à Lozère, comme dans la vallée du Lot, comme à Cahors, était mené au bûcher pour être quelquefois à Cahors jeté dans le Lot. Et avec un lamento sur ce roi mené au bûcher, lamento bien connu, « Adi u paure carnaval, tu t'embas, io d'amor, per mansa la supodol, per mansa la supodal. » Adieu, pauvre carnaval, tu t'en vas et moi je reste pour manger la soupe à l'huile, pour manger la soupe d'ail, le tourin, autrement dit. On s'aperçoit alors que le peuple s'assimile à son roi, au carnaval, condamné à périr. Il y a un transfert de l'esprit du peuple sur la personne du roi. Or, ce carnaval, qu'est-ce que c'est ? Je vous le dis, c'est peut-être Dionysos revivissant, Dionysos homophage, Dionysos qui mange de la chair crue, contrefaçon de la Sainte Seine. La procession bouffonne de carnaval, c'est l'anti-jeudi saint. Mais c'est aussi l'anti-Vendredi Saint. Il y a donc une inversion totale pendant les trois derniers jours de carnaval et pendant les six jours qui précèdent du reste le Mardi Gras, il y a une inversion totale des rites de la Semaine Sainte. En quelque sorte, le carnaval serait une inversion des rites et des représentations religieuses, une inversion des fonctions, une inversion des formes, même quelquefois une inversion des lieux. Alors évidemment, selon les années et en fonction du calendrier lunaire, il arrive que Carnaval tombe pour le jour de la Saint-Blaise, le 3 février. Et alors là, c'est le cas en Languedoc-Roussillon, on voit un personnage vêtu comme un évêque, représentant Saint-Blaise, et qui figure dans la procession de Carnaval, en lieu et place du bonhomme Carnaval. Il est juché sur un âne, mais le visage tourné vers la queue. Toujours l'idée de l'inversion, donc du renversement, de la subversion. Et d'autres groupes de personnages interviennent dans ces processions du Languedoc, notamment à Cournonterral et Fécos, mais je crois que c'est à Pézenas que le carnaval est guidé par Saint-Blaise. Or, Saint-Blaise intervient dans notre mythologie sacrée du Quercy Blanc et du pays de Montcuq, puisqu'il avait une chapelle à l'est du bourg de Montcuq, pas loin de l'église actuelle Saint-Privat, à l'emplacement de l'actuelle statue de la Sainte Vierge. Et Saint-Blaise est entre autres choses, il a beaucoup de fonctions, il a beaucoup de domaines de compétences. Il est entre autres choses le maître des passages d'angoisse, des initiations, des commencements, mais il disait aussi le maître des pierres levées, des menhirs. Or, le radical gaulois, enfin plutôt pré-gaulois, c'est Carnes, qui va donner Carnac par exemple. C'est le lieu des carnes, le lieu des cornes, c'est-à-dire des pierres levées, nom que vous retrouvez dans le nom de Carnaval, d'où l'interprétation de mon ami Dominique Beauvert, Carnaval, le prince des cornes. Et Saint-Blaise en serait peut-être une figuration chrétienne médiévale, parce qu'il est aussi le patron des animaux sauvages, des animaux cornus et griffus. Il y a un tableau dans l'église Saint-Privat qui montre bien les motifs principaux de la personne mythico-religieuse de Saint-Blaise à ce sujet. Or, si à Lozère, ce n'est pas le Saint-Blaise que l'on retrouve, on retrouvera par exemple Saint-Mathurin de l'Archamp, on retrouve Saint-Barthélemy, mais dans des positions locales qui sont complètement inversées par rapport à la fonction. Ce qui caractérise le roi de Carnaval, c'est que c'est un pansard, un mangeur, un baffreur, un buveur, portant à Pézenas une mitre épiscopale. Il siège monté à l'envers sur un âne, et son animal signe, son animal parèdre, son animal totem, c'est le coq. Coq qui intervient, je vous le disais à Lozère, où il faut absolument avoir mangé un poulet ou une poule le jour du Mardi Gras, mais le poulet que l'on mange, c'est le coq tué le jeudi précédent. Alors, ce que l'on peut dire en conclusion, c'est quoi ? C'est que ce qu'on voit apparaître, c'est souvent une vieille sacralité païenne, bien antérieure au christianisme. Christianisme contre lequel cette sacralité a pu se manifester sous la forme de certains rites qui, par le hasard du calendrier, tombent en concordance avec la fin de la période d'avant le carême, donc dans les derniers jours avant le carême, mais c'est une concordance tout à fait hasardeuse. Et cette sacralité païenne, qui se traduit donc par la sortie des masques cornus, n'est pas sans m'intéresser dans la mesure où on sait par les travaux de Jean-Jacques et de Bénédicte Feignet, professeurs à l'université de Bordeaux, que partout dans leur terre, les comtes de Toulouse ont choisi comme siège de leur pouvoir des lieux, si possible perchés, auxquels ils donnaient le titre de mont, et qu'ils choisissaient en fonction de la réminiscence, de la rémanence, d'une très vieille, très antique sacralité païenne, qui donc à Lozère s'exprimerait à travers les rites du carnaval et du brûlement de carnaval, qui pourrait représenter finalement, dans l'attente de Pâques, la vieille année qui disparaît et un renouvellement du temps vers l'équinoxe de printemps. Voilà ce que j'ai tenté de résumer sur Carnaval dans nos régions. Il y avait beaucoup d'autres choses à dire, ça aurait été fort long. J'espère ne pas avoir égaré vos esprits. Vous savez que c'est très difficile pour moi de transmettre tout en peu de mots. Nous nous reverrons dans 15 jours sur un autre sujet. Allez, donc à une autre fois et portez-vous bien.